Chapitre 6e. Très peu de temps après, cependant, une crainte vint assombrir ma joie. Je me demandais sans cesse si les gardiens n'avaient pas songé eux aussi à ce détail, s'ils n'avaient pas pris des précautions que nous ignorions, s'ils ne faisaient pas coïncider une de leurs rondes avec le passage du train. J'essayais de le savoir en me levant la nuit et en allant coller à l'oreille à la porte de notre chambre pour tâcher de surprendre le vacarme de l'express évanoui, un bruit de pas. Je n'entendais rien. Je n'en recommençais pas moins chaque soir le même manège, car je n'étais toujours pas tranquille. Bientôt mes craintes se calmèrent. La surveillance dans un camp ou dans une prison n'est jamais faite avec la conscience et la minutie que nous apporterions, nous, à surveiller une personne qui nous est proche. Mes espoirs devenaient chaque jour plus grands. Je me voyais déjà libre. Juste au moment du passage du train, je défonçais avec un escabeau, en quelques secondes, les planches de la fenêtre. Je choisissais une nuit où le temps était épouvantable, de façon que nos gardiens, bien au chaud autour de leur feu, ne songeassent même pas à sortir. Je me dirigeais vers le coin de la cour où j'avais remarqué que le fil de fer barbelé était le plus lâche. J'en connaissais par cœur toutes les circonvolutions. J'avais décomposé dans mon esprit chacun de mes gestes. Avec un bâton que j'avais déposé tout près, auquel personne n'avait de raison de faire attention, j'écartais le premier fil. Ce bâton, terminé en fourche, était pourtant souvent déplacé. Je le retrouvais parfois à l'autre bout de la cour. Personne n'est aussi agaçant que ces inconnus qui, par désœuvrement, détruisent sans s'en apercevoir nos préparatifs. Je le remettais chaque fois à sa place. Je finis cependant par craindre que ce ne fût toujours la même personne qui l'ôtât, qu'à la longue, elle ne trouva bizarre qu'il revint à la même place. J'écartai donc le premier fil. Je passai dessous. De la main droite, je soulevais le suivant. Du pied gauche, je maintenais le troisième à terre. Puis, lâchant le premier, et m'aidant toujours de mon bâton, j'élevais le quatrième. À ce moment, je pivotais à demi, de manière à me glisser dans l'espace auquel ceux qui avaient posé ce réseau de barbelés n'avaient même pas prêté attention et qui me permettait largement de passer. Je jetai mon bâton. Je serrai contre moi mes musettes pour qu'elles ne s'accrochassent pas. J'avais d'ailleurs pris la précaution de les attacher avec une ficelle autour de ma taille. Tous ces gestes étaient accomplis avec calme et méthode. À aucun moment je ne me trouvais dans l'obligation de me hâter. Je longeais la voie. Je marchais toute la nuit. À l'aube, je me cachais dans un trou quelconque où je restais jusqu'à ce que l'obscurité revînt. C'était une idée que j'avais souvent eue, que le meilleur moyen d'échapper aux recherches était de disparaître complètement. J'avais calculé que pour passer le cap des premières recherches, de la colère et de l'agitation causée par mon évasion, il me fallait pouvoir me passer de mes semblables pendant une quinzaine de jours. 15 jours de vivre m'étaient donc nécessaires. En 15 jours, en admettant que je ne marchasse que la nuit, je pouvais presque atteindre la frontière française. Après, je serais sauvé. Évidemment, si j'avais pu emporter des vivres pour un mois, c'eût été préférable. Mais comment me les procurer? En admettant même que j'y parvinsse, la question du poids entrait en jeu. Il fallait bien compter 500 à 600 grammes par jour. Cela faisait une quinzaine de kilos à traîner au début. Ce poids, dans la conversation, semble insignifiant, mais quand il faut le charrier, c'est beaucoup. Dès que j'eus établi ce plan, je me reprochais de n'avoir pas commencé mes préparatifs plus tôt. J'aurais pu partir tout de suite. Il y avait 8 jours, justement, j'avais reçu un colis de mon père. Je l'avais mangé. Je ne savais pas alors ce que j'allais faire. Il me fallait maintenant attendre le prochain. Et la boussole? Pourquoi n'avais-je pas essayé plus tôt de me procurer une boussole? Je me dis alors qu'il ne fallait pas toujours se laisser démoraliser par ces raisonnements qui, en nous persuadant qu'il est trop tard, nous empêchent d'entreprendre quoi que ce soit. Il y avait encore la nécessité de me procurer des vivres qui me tracassaient. Au bout de 15 jours, je réussis à mettre de côté 2 kilos de pain environ, 2 boîtes de pâté, 1 boîte de sardinelles, 1 boîte sans étiquette dont j'ignorais le contenu, 1 tablette de chocolat de 250 grammes, 1 livre à peu près de fèves, 1 poisson fumé dont j'ignorais le nom, 5 bouchées d'une pâte de fruits mélangée à de la chocolatine, 1 morceau de fromage blanc écrémé et séché aussi dur que de la pierre, devant peser une centaine de grammes, quelques biscuits faits avec de la farine de châtaigne, une livre de noix. Avec le colis de 5 kilos que j'attendais, j'estimais que je pouvais, en surveillant de très près mes rations, en ne mangeant que lorsque vraiment la faim deviendrait intolérable, tenir une 20aine de jours.